BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, merci d'être là. Bonnes vacances aussi à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez peut-être tranquillement à la plage. Voilà, les pieds dans le sable, vous avez bien raison, profitez-en en tous les cas. De quoi je me mêle, c'est le dernier de la saison. Voilà, on voulait être encore avec vous en cette fin juillet pour bien faire un point sur toute l'actualité tech. Avec au sommaire pour ce De quoi je me mêle, donc avant de se retrouver fin août, tout à l'heure, un invité exceptionnel, Stan Larocque, sera avec nous. Stan Larocque, vous le savez, c'est un peu notre génie de la VR qui a créé il y a quelques années de ça la start-up Lynx. Eh bien, il a une annonce à nous faire. Il nous racontera tout dans la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et puis, je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est parti.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
J'essaie de faire du teasing, Stan Larocque, révélation, etc., etc. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est du lourd et Stan viendra nous expliquer tout ça en deuxième partie. Mélinda d'Avansoulas est là, salut Mélinda.
Salut François.
Mélinda n'est pas encore en vacances, oh mais ça se prépare.
Oui, il y a encore un peu de temps.
Il y a encore un peu de temps.
Il y a un peu d'activité tech ici-là.
Et on peut le dire, il y a de gros annonces Samsung qui vont pas tarder à arriver là.
Samsung, ça, Google aussi.
Voilà, et Google aussi. Donc,
La tech ne s'arrête jamais.
La tech a la bonne idée de faire des, de faire des annonces importantes en plein milieu de l'été. Bah oui, c'est comme ça. Mélinda qui, vous le savez, journaliste à la rédaction de BFM Tech. Et nous avons aussi Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
Salut François, salut Mélinda.
Quel plaisir de te voir Nicolas.
Bah,
terminé de quoi je me mêle, la saison de quoi je me mêle avec toi, c'est top.
Bah écoute, moi j'ai eu l'invitation, on m'a dit c'est la dernière. J'ai dit ok, j'arrête tout, je viens.
Let's go.
Et je suis là.
Nicolas que vous pouvez lire dans Numérama, voir aussi sur le site Numérama. Et que vous allez pouvoir voir aussi tout au long de l'été dans Télématin, puisque tu vas faire la chronique tech dans Télématin.
Pour les leftos, 7h20, 8h20, des horaires.
Tu n'en veux pas, je te regarde en replay.
C'est très bien déjà, c'est très gentil, je t'en remercie.
Allez, on va donc s'intéresser à toute l'actualité de cette semaine et on va commencer par cette histoire abracadabrante entre deux géants de la tech qui se tirent les cheveux, hein, on peut le dire, c'est incroyable. D'un côté, OpenAI et de l'autre côté, Apple. Apple qui attaque OpenAI. Peut-être Nicolas, tu commences et après Mélinda va compléter parce que je sais qu'elle a des choses à dire là-dessus.
Oui, c'est le procès qu'on n'avait pas trop vu venir,
non.
En tout cas pas dans ce sens, parce que OpenAI, ils ont plein d'ennemis en ce moment. Ils ont eu des problèmes avec Elon Musk, il y a eu le fameux procès du siècle, finalement on n'a absolument rien donné, ce qui était assez prévisible finalement. Ils détestent Anthropique, ils se sont embrouillés avec Microsoft, ils s'entendent mal avec Google, ils s'entendent mal avec tout le monde OpenAI, mais Apple c'était plutôt un partenaire jusque-là. Il y avait eu l'accord il y a 2 ans pour intégrer ChatGPT à Siri.
Oui, on se souvient.
ChatGPT toujours
un accord qui avait été fait un peu à la va-vite, on avait l'impression que voilà, dans Siri, on voulait un peu ajouter d'intelligence, on s'est dit vite,
c'est un peu
on va
ça.
Faire un petit accord avec ChatGPT.
C'était le moment où Apple n'était pas encore prêt à admettre qu'il fallait tuer Siri et lancer un nouveau modèle.
Ça,
du coup, ils
ça.
Avaient fait un petit deal en disant oui, ça va suffire, mais ça n'a pas suffi.
Bah
et au contraire, on entendait plutôt des rumeurs ces derniers mois comme quoi OpenAI envisageait de porter plainte contre Apple parce que l'accord pour créer Siri AI, l'accord avec Google pour entraîner ces modèles allait contre l'accord avec ChatGPT. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est Apple qui attaque OpenAI et quand on lit le procès, la demande qui a été déposée à la justice américaine, c'est juste hallucinant. On voit en fait que OpenAI aurait mis en place tout un système sophistiqué pour espionner industriellement Apple, pour lui voler ses secrets. Ils ont embauché plusieurs employés, des centaines d'employés
400,
d'Apple.
400.
400 employés, c'est 400 immense. Employés.
Incroyable.
Les entretiens d'embauche avec les employés Apple auraient plein de questions un peu confidentielles pour voir qui est prêt à donner des informations, y compris à la fin pour ne pas les embaucher, mais pour choper des informations.
Wow.
Et plus généralement, là où ça va loin, c'est qu'il y a cette histoire d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs qui n'auraient pas été rendus à Apple, qui auraient encore accès au serveur Apple, il révèle quand même de belles failles de sécurité chez une marque qui est habituée au secret et surtout des employés OpenAI qui se vanteraient dans leurs conversations privées sur leurs ordinateurs Apple d'accéder aux documents Apple et de les partager à OpenAI. En fait, Apple suspecte à OpenAI d'avoir mis en place un système ultra sophistiqué qui consisterait à copier tous ses produits à venir pour l'IA. Donc on peut imaginer les fameuses lunettes, les fameux écouteurs
oui,
avec des caméras
fameux,
dont on parle.
On en parlera tout à l'heure, mais
les fameux bras robotiques,
le
etc.
IA,
en
dire.
Tout cas, OpenAI qui a quand même débauché plein d'employés, qui travaille avec Johnny Ive sur le design, qui semble vouloir lui aussi se lancer sur le hardware. Maintenant, aurait voulu copier totalement Apple, quitte à l'espionner. Donc ça pourrait être un gros procès et provoquer quelques problèmes. Pour
c'est rarissime, Melinda, ce type d'histoire. Enfin, je veux dire, parce que c'est de l'espionnage industriel. Incroyable.
Pas de ce niveau-là, en fait. Pas avec des entreprises de cette importance-là. Parce que, alors Apple, c'est un vieux de la vieille maintenant, hein, 50 ans, on se dit, bon, il est bien installé. On lui a connu plus des inimitiés, des petites rivalités, mais... Après, c'est comme dans n'importe quel domaine, ça fait un peu, ça fait les sujets, ça fait parler. Mais là, on est sur un truc d'une nouvelle génération, quoi. C'est vraiment espionnage nouvelle génération. C'est vrai que quand on lit le procès, le coup des ordinateurs, extraordinaire.
Incroyable.
Extraordinaire. Déjà, on se dit comment Apple, en effet, comme dit Nico, comment Apple, qui est si soucieux du moindre détail...
Mais oui, bien sûr, qui fait la chasse, en fait, à toutes les fuites de produits, etc. etc.
Non, mais
bon, la chasse, ça ne marche pas très bien, parce que...
On se souvient du fameux employé... Souvenez-vous des histoires de l'employé qui avait fait venir sa fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est au moment du lancement de l'iPhone 10 ou 10S, qui avait fait venir sa fille au Café Mac, donc qui est le café des employés, et elle s'était filmée avec le prochain iPhone qui n'était pas encore annoncé pour faire une vidéo YouTube. Ça avait fait des millions de vues. Elle avait leaké le produit, son père s'était fait lourder, évidemment.
Je crois même que c'était après l'annonce. Hein. C'est-à-dire que
elle l'a fait juste avant.
C'est juste avant.
On avait vu la vidéo avant, il me semble. Enfin, en tout cas, c'était autour de l'annonce. Donc évidemment, son père s'est fait virer, mais apparemment, il avait déjà prévu de partir.
La vidéo qui coûte cher.
C'est pas grave. Non, mais on a une adolescente comme ça, on la laisse
pas
faire. L'employé qui se vantait d'avoir des centaines et des centaines, voire peut-être même un millier de contacts dans la presse à qui il fournissait des informations qu'ils ont poursuivies jusque dans les toilettes où il était en train d'effacer son téléphone avec tous les numéros des gens auxquels il envoyait des infos. Donc pendant, il y a beaucoup de leakers qui ont disparu depuis que ce monsieur s'est fait virer.
Bien sûr.
Enfin, ils étaient hyper au taquet sur plein de choses. On se souvient de Tim Cook qui faisait des mails pour dire aux employés « maintenant vous arrêtez
».
Et là, on apprend que donc quelqu'un qui s'est fait virer, aux États-Unis, c'est vous êtes viré le matin, l'après-midi, vous n'êtes plus là, vos cartons, votre bureau est dégagé.
C'est quelqu'un qui s'est fait virer ou qui s'est fait embaucher par OpenAI.
Il a été embauché chez OpenAI.
En fait, il est parti, mais il a réussi à garder l'ordinateur.
Il a gardé le matériel et les accès au serveur.
Ouais. Il avait deux ordinateurs, il n'en a rendu qu'un sur les deux. C'est extraordinaire.
Ce qui est assez fou, surtout qu'a priori, ça ne serait pas un incident isolé. Moi, j'ai essayé de discuter avec des gens qui travaillent chez OpenAI aux États-Unis et ils me disent en fait qu'en interne, c'était une blague parce qu'il y avait cette rumeur comme quoi ils avaient accès aux serveurs d'Apple et ils sont vantés en interne en mode de toute façon, nous, on a accès à tout ce que fait Apple, mais ils ne savaient pas si c'était par rapport au partenariat, par rapport à tout ça. Donc en fait, OpenAI a vraiment mis cette culture d'entreprise où ils assument le côté grand méchant qui a accès à tout et qui veut dominer le secteur tech. Donc ils sont en train de se retourner contre eux.
Mais il y a quand même un complexe. Il y a une forme de complexe, je pense, de Sam Altman et de la direction d'OpenAI vis-à-vis d'Apple. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils se rêvent d'entreprises comme
bien
ça.
Bien sûr.
Ils ont quand même
le fait de s'offrir Jonathan Ive, c'est que
voilà,
c'est déjà un signe.
Il a racheté une start-up fondée, iProducts, qui est fondée par un ancien de l'équipe de design d'Apple, qu'ils ont racheté une fortune. Ils ont fait venir des responsables à foison. On disait 400 employés d'Apple sont partis chez OpenAI. C'est pour vous dire à quel point il est obsédé par ça. Mais oui.
On parle pas juste du petit ingénieur.
Qui était au Vision Pro.
Il y a Evan Sankey qui avait remplacé Johnny Ive au design, qui a quitté finalement Apple après Johnny Ive
pour rejoindre
Johnny Ive chez OpenAI. Donc il y a quand même cette volonté surprenante. D'ailleurs, moi, je comprends pas pourquoi OpenAI veut absolument faire du hardware. J'avoue que ça fait partie des choses qui me dépassent. Peut-être que dans quelques années, ça paraîtra évident pour tout le monde. Mais pour moi, aujourd'hui, ils sont à la tête des modèles les plus utilisés au monde, ils ont un des services les plus puissants, ils pourraient finalement devenir un géant du logiciel, être absolument partout. Pourquoi vouloir absolument aller vite lancer un téléphone, lancer des écouteurs? J'avoue, c'est un peu un mystère pour moi.
C'est marrant parce que moi, ça me paraît hyper rationnel.
Ah ouais?
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ton logiciel est partout, comme eux, ils l'ont, c'est très bien, ça te permet de fidéliser une audience.
Mm-hmm.
Mais ça reste sur des produits tiers. Et quand tu as Apple qui risque de les couper, tu peux perdre l'accès aux appareils.
Oui.
Quand tu as habitué les gens à avoir ton service, et on voit aujourd'hui, même si Siri devient fort, les gens comme toi qui utilisent les modèles autres, tu ne vas pas avoir envie d'aller voir Siri. Si on te coupait Claude ou OpenAI sur ton appareil, et que le même service, tu peux l'avoir sur un appareil qui se veut équivalent, parce que c'est pour ça qu'ils copient Apple, et notamment aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas migrer, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT sur d'autres appareils est une espèce de cheval de Troie qui fait que, quelque part, tu séduis les gens, tu les habitues à ton service, et à un moment, tu vas dire « Ouais, mais regardez, pourquoi est-ce que j'irai ?» Enfin, c'est le même principe pour
je pense
que tu restes chez les autres. Fais ton propre hardware, et si tu fais du hardware qui marche en copiant les modèles d'Apple, finalement, tu as tout compris au truc. Et je pense que son l'antagonisme avec Apple, c'est ça aussi, il y a cette jalousie.
On va en parler après, parce que évidemment, il y a des leaks concernant le futur produit d'OpenAI, justement, mais je pense que la stratégie d'OpenAI est simple, c'est d'incarner en fait ChatGPT.
Et oui, ça devient
une personne qui rentre dans ta vie, comme ça l'est déjà. Enfin, quand on utilise ChatGPT au quotidien, ça devient un vrai assistant.
C'est vrai, tout à fait.
Et je pense qu'ils ne veulent pas forcément dépendre, comme le disait Mélinda, d'acteurs tiers. Et ils veulent avoir maîtrisé, si tu veux, un hardware qui leur permettra d'être les maîtres à bord. Parce que c'est vrai que si demain, il se brouille avec Apple ou avec Google et que demain, tu n'as plus accès à OpenAI sur tes téléphones, d'une manière ou d'une autre, on se souvient
c'est
des pics, etc.
Là, bien sûr. Mais là où j'ai des doutes, c'est sur leur capacité à imposer ce matériel.
Ça, c'est vrai.
Et c'est quand tu vois les tentatives de... Enfin, il y a globalement des duopoles dans la tech. Il y a eu Microsoft, Apple sur les ordinateurs, Android, iOS sur les téléphones. C'est très compliqué de casser ces écosystèmes-là. Et si finalement, ils sortent un téléphone Android, ils sont dépendants de Google dans tous les cas. Et Google peut, dans tous les cas, accéder, couper, imposer Gemini sur ces appareils-là. Donc,
c'est pour ça que moi,
ça me paraît quand même un peu compliqué, leur stratégie.
C'est pour ça que moi, de toute la gamme de produits qui sont murmurés chez eux, je ne crois pas au smartphone exactement pour ce que tu dis, parce que ça les laisse sous dépendance.
Oui, c'est clair.
Faire leurs propres produits, haut-parleurs, n'importe, speaker, enfin, ce qu'ils veulent, il faut qu'ils soient maîtres de tout. Et regarde dans les gens qu'ils ont embauchés de chez Apple. Ils sont allés chercher. Ils n'ont pris aussi, ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris des têtes d'affiche que toi et moi, on connaît.
Sûr.
Mais ils sont allés prendre surtout des gens qui sont aussi revanchards vis-à-vis d'Apple.
C'est
des
vrai,
gens
c'est
qui
vrai.
Étaient en seconde ligne. Des gens comme Johnny Ive qui sont partis pas en bon terme. Donc, ils ont créé cette espèce d'émulation collective. Il faut qu'on aille les bouffer. Et on va aller les bouffer sur leur propre terrain. Et je pense que c'est pour ça. Et donc, les fuites et les recrutements vont dans ce sens-là. Il y a quelque chose. On va peut-être découvrir un jour que Sam Altman s'est fait recaler d'un entretien d'embauche chez Apple ou je ne sais quoi. Mais ils sont allés, il a monté une armée de gens qui en veulent aussi à Apple.
Non, c'est possible.
Quand on va chercher le responsable du Vision Pro, quand on voit tout ce qui a été dit sur le Vision Pro, il n'a pas été extrêmement bien défendu non plus par Apple. On a quelqu'un qui a envie de prouver à Apple qu'il peut faire un produit pour les tuer, en fait.
Ce qui est intéressant aussi, enfin, si on revient à cette histoire abracadabrande d'espionnage industriel entre Apple et OpenAI, c'est qu'il y a eu des quiproquos entre les avocats des parties. Je ne sais pas si vous avez suivi ce truc-là, mais en fait, il y a eu des mails qui ont été échangés entre les avocats d'Apple et d'OpenAI. Et l'un des deux s'est trompé de destinataire. Ce qui fait que... Enfin, il y a eu un quiproquo incroyable qui a ajouté, en fait, des silences dans toute cette pagaille. Ce qui fait qu'Apple a monté d'un ton. Mais en fait, parce que OpenAI n'avait pas de retour, finalement. Il y a une histoire de fou entre avocats qui se sont trompés de destinataire. C'est fou quand même. On peut se dire des boîtes qui valent quand même des milliards, qui doivent laisser des ardoises monstrueuses à des cabinets d'avocats, comme ça pour des trucs aussi débiles. C'est fou.
Tu sais que parfois on s'aperçoit que ces trucs qui ont l'air d'être des erreurs de débutants sont dus au fait que les mecs utilisent l'IA mal.
Donc ils ont mal utilisé ChatGPT. Qui passaient moins de temps à faire du hardware et plus de temps à améliorer les modèles, ils auraient peut-être pas de problème.
Mais moi, j'attends de voir comment la plainte évolue, parce qu'il y a des trucs hyper intéressants dans ce qu'ils ont dit. Par exemple, dans l'argumentaire d'OpenAI, ils disent « Ah non, mais on copie pas le HomePod, on a violé aucun brevet. » D'un autre côté, si tu as toutes les infos avant que les demandes de brevets soient déposées, c'est sûr que tu violes aucun brevet.
Mais ça va être intéressant.
Il y a un monde où ça va leur faire mal, surtout parce que pour le coup, le vol de secret industriel, s'il est avéré, c'est pas la même chose que Elon Musk qui considère qu'ils ont trahi leur mission originelle.
Oui.
C'est du concret.
Oui, c'est
Apple,
du concret.
Ils sont très puissants et ça va les déstabiliser.
Armés.
Et on voit bien d'ailleurs dans la réaction de Sam Altman, d'OpenAI, que là où jusqu'à maintenant, ils ont toujours répondu par la provocation, limite par la moquerie envers tous ceux qui les attaquaient, particulièrement Elon Musk, avec qui ça se dispute assez violemment sur les réseaux. Sa réaction de dire non, mais j'ai beaucoup de respect pour Apple, c'est une très grande entreprise, on va voir comment on va régler ça. Enfin, ils essayent vraiment de calmer le truc et tu sens que pour eux, c'est une très mauvaise nouvelle.
Bon, alors, ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est cette news suitée par Mark Gurman concernant le prochain produit OpenAI. C'est vrai qu'on en parle depuis un moment. On sait que Jonathan Ive est sur le coup et visiblement, Gurman a eu des infos en avant-première. Est-ce que ça va s'avérer être exact ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il y aurait une espèce d'enceinte mais c'est une enceinte qui serait beaucoup plus que ça, qui serait motorisée et qui pourrait avoir même une espèce de pas de gestuelle, mais dans tous les cas, une vie, finalement, et qui deviendrait un compagnon IA, un peu comme un camarade ou un secrétaire, un assistant qui serait à la maison. Alors, on n'a pas de design, etc. Elle tournerait sur ChatGPT Live, qui, vous le savez, est un truc qu'on a déjà, en fait. Hein, quand vous avez ChatGPT, vous appuyez sur un petit bouton et là, vous pouvez dialoguer avec ChatGPT, comme vous le faites avec Siri, sauf que là, c'est quand même d'un autre niveau. Et on aurait ça, donc, posé à la maison et avec qui on pourrait discuter et poser plein de questions sur plein de sujets.
Selon moi, un produit assez logique. Enfin, c'est plutôt vers ça qu'il faut se diriger, plutôt que vers le smartphone en premier, où ça va être extrêmement casse-gueule et où ils vont se faire taper dessus par à peu près tout le monde. Maintenant, encore une fois, la question, c'est à quel point ça peut s'imposer. On sait qu'il y a quand même de la réticence sur l'intelligence artificielle de plein de personnes, qu'OpenAI n'est pas forcément l'entreprise qui a pour l'instant la meilleure image en termes de confions-leur toute notre vie privée, toutes nos données. Le marché des enceintes domestiques, il existe depuis 2017 en France, 2015-2016 aux États-Unis. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est un succès. Ça l'est peut-être chez nous et chez les personnes qui nous écoutent, parce qu'on est plutôt fan de nouvelles technologies, qu'on a envie d'avoir de la domotique à la maison, tout ça. Mais ça ne s'est pas imposé, ça n'a pas vraiment complètement changé les usages. Donc, jusqu'où ça peut aller ? À quel point ça sera mobile et à quel point ce côté robotique et gadget, je ne sais pas. C'est vrai que ce qui est évoqué, c'est le fait que si l'enceinte vous parle, et bah elle va mimer des mouvements de visage en se déplaçant. Mais est-ce que ce n'est pas totalement gadget et inutile par rapport à ce qu'on pourrait attendre du service ? Et surtout, la concurrence n'a pas attendu, parce qu'Alexa Plus, ça commence à être testé en France, ça sera bientôt disponible en version grand public. Gemini pour Google Home, pareil, c'est très bien, ça a des défauts, mais ça a le mérite d'avoir vraiment amélioré
C'est surtout un gap par rapport à la précédente version.
C'est un vrai gap, et là où OpenAI va avoir le même problème qu'avec le smartphone, selon moi, c'est qu'il va falloir des partenariats. Ce qui est intéressant, moi j'utilise Alexa ou Siri ou Google Assistant, enfin Gemini maintenant, pour contrôler toute ma maison connectée, pour mettre de la musique de temps en temps. Et voilà, la musique, à la limite, ce n'est pas compliqué. Ils peuvent faire, ils ont déjà du Apple Music, du Spotify. Mais est-ce qu'ils peuvent avoir tout l'écosystème d'accessoires d'un Google Home ou d'un Amazon Echo ? J'en suis pas totalement sûr, en tout cas pas sur le
court terme. Et puis ça va être forcément un outil de domotique, forcément. C'est-à-dire que tu vas pouvoir allumer ta lumière, etc. Forcément. Ouais. Et donc, il va falloir aussi faire tout le travail titanesque qu'a fait Alexa, Apple Home et Google Home, d'intégrer en fait toutes ces API.
Bien sûr,
mais
ils en font un protocole partenaire.
Voilà, tu te rends compte, ça, c'est un boulot de dingue.
Ils peuvent miser sur Matter,
etc. Bon, après, il y a protocole Matter, ouais, voilà,
oui, mais
c'est ça.
Il faut signer un partenariat avec Matter.
C'est un standard, ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tous les produits qui sont sur Matter.
Oui, il n'y a pas tout.
Mais déjà, tu as ça, c'est déjà pas mal, si tu veux.
C'est déjà pas mal.
Tu t'enlèves une épine du pied, après, tu n'as pas tout.
C'est déjà pas mal, mais il y a toujours cette limite de ne pas posséder l'écosystème global avec les smartphones, les ordinateurs, qui fait que ton système sera toujours un petit peu enclin sur lui-même. Et c'est forcément un petit peu plus limite.
C'est pas taillé pour la maison. Pour moi, c'est ça plus GPT Live, donc le fameux assistant vocal, il n'est pas non plus taillé pour la maison. À quel point ils vont l'entraîner pour la maison, pour l'adapter. Là où Alexa bosse quand même depuis plus de 10 ans dessus, Google aussi, tu y vas pas facilement. Honnêtement, moi, leurs produits là qu'ils annoncent, je comprends où ils veulent aller, je comprends pas à quoi ça sert. En effet, c'est plein de gadgets, de trucs complètement inutiles. Qu'est-ce que j'en ai à faire qui me regarde et qui me fasse des sourires ou qui me fasse coucou du bras. Enfin, honnêtement, je pense qu'ils cherchent vraiment à extraire GPT sous n'importe quelle forme des autres.
Dans un produit.
Et donc, ils essayent de se donner une constance dans un produit. Après, quel est le produit ? Est-ce qu'ils doivent aller vers ce qu'on avait au début ? On avait murmuré un smartphone, puis on a murmuré un appareil qui sera porté, type le AI Pin, là, qu'on avait vu popper, qui a été un fiasco total. Mais on se dit, avec ChatGPT, pourquoi pas ? Vous savez, c'est ce fameux espèce de...
Avec le vidéoprojecteur sur la main.
Le vidéoprojecteur, c'était d'une complexité d'utilisation, c'était absolument horrible et horriblement cher.
Qui aurait pu le prédire ?
Oh, ben non. La première fois qu'on l'a vu, on s'est fait... À quoi ça sert ?
Je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant dans ce produit, parce qu'évidemment, c'est débile. Mais je trouve que le gars qui s'est dit, il est vraiment dans la science-fiction, quoi. Ça, tu peux le respecter quand même.
Oui,
parce qu'il s'est dit,
sûr.
Je vais faire un truc qui va projeter des informations et avec ta main, tu vas pouvoir projeter le truc. Le mec, il a dépensé des dizaines de millions là-dedans, quoi.
Ouais, tu vois,
mais ça... Et évidemment que c'est nul, ça marche pas. Mais Ah ouais, quand même, respect, quoi. Le gars, il a fait un truc de dingue.
Oui, non, mais en soi, pourquoi pas.
Et peut-être que dans 10 ans, on se dira, waouh, il avait raison. Peut-être qu'on aura un truc, tu vois, holographique, je sais pas quoi, qui apparaîtra. Mais on se dit...
Sa réflexion de base, elle était bonne. Faire quelque chose qui ne se serve plus du smartphone. Qu'il soit déconnecté du smartphone et qu'il vive par lui-même, c'est pas bête. Et on vient de le dire, finalement...
Je sais pas si c'est pas bête. Est-ce qu'on a vraiment envie de remplacer le smartphone?
Ah non, je dis pas qu'on a envie. Je dis que l'idée de se dire, j'ai un appareil qui fait... autre chose de plus, et je n'isole que ça, parce qu'aujourd'hui, oui, ton téléphone te sert presque moins à téléphoner qu'au reste, c'était pas déconnant à une époque où on n'arrête pas de nous expliquer que tout le monde essaye de faire sa détox du téléphone, des machins. Il y avait une réflexion. C'est juste la finition et l'ergonomie qui n'était pas bonne. Mais regarde, qu'est-ce qu'on raconte depuis quelques minutes de ce que veut faire ChatGPT, enfin de ce que veut faire OpenAI? Se détacher du téléphone pour imposer son modèle.
C'est sûr.
Donc, il y a quelque chose qui est commun. Je pense qu'ils partent un peu dans tous les sens. Personnellement, je pense que leur réflexion autour de quelque chose part dans tous les sens. Je pense que Mark Gurman, ayant eu toutes ses sources chez Apple, s'il y a vraiment 400 personnes qui sont parties chez OpenAI, c'est pas déconnant qu'il en ait. Donc c'est fiable. Moi, j'attends de voir parce qu'ils sont capables de se tuer tout seuls OpenAI en voulant partir dans tous les sens.
Ils ont annulé beaucoup de projets depuis la fin d'année et depuis leur petite crise interne sur les modèles.
Ils s'éparpillent.
Bon, il nous reste un petit quart d'heure. Comme c'est la dernière de la saison, on s'est dit... forcément, Nico, Mélinda et moi-même aurions un petit coup de cœur, un petit truc à raconter avec un produit qui nous a tapé dans l'œil et qu'on aime bien. On est d'accord? Ça vous va?
L'année est lourde.
Il y a toujours des choses. Ouais.
Il y a toujours à raconter.
Il y a toujours des trucs. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de produits, mais parfois on en reçoit et on en teste beaucoup. Il y en a qui nous paraissent intéressants, mais qu'on oublie finalement. Et puis il y en a d'autres qui nous marquent. Dont on se dit waouh, il y a un vrai truc à raconter, il y a un vrai quelque chose. On va peut-être commencer par toi, Nico. Qu'est-ce qui t'a marqué? De quoi tu voulais nous parler pour cette dernière de quoi je me mail?
C'est pas un produit, c'est une entreprise et ça va même prendre la forme d'un mea culpa parce que pour tout vous dire, il y a encore un an, je ne croyais pas du tout en Anthropique, dites-le comme vous voulez. Donc c'est le créateur de Claude qui a été fondé par des anciens d'OpenAI. On reste vraiment dans l'univers IA finalement. Et j'étais un peu convaincu que leur stratégie avec Claude Code qui séduisait uniquement les développeurs, le côté très élitiste où nous on fait mieux que les autres, on est plus éthique, ça allait juste être une start-up IA parmi tant d'autres et que toute cette hype était complètement surévaluée. La preuve, Anthropique, ça pesait rien à l'époque. Le Claude n'était pas du tout connu du grand public, ça avait un taux d'utilisation très très faible et j'avais du mal à croire qu'Anthropique allait réussir son coup. Et un an après, le mea culpa, c'est que je pense que Anthropique, c'est mon gros coup de cœur de l'année finalement, parce que tout ce qu'ils font est toujours intelligent. Déjà, ils ont pris le leadership sur les modèles. Ça fait plus de 6 mois maintenant que les meilleurs modèles du marché, c'est eux. On a beaucoup parlé de Mythos, mais bon, les dernières versions d'Opus, elles sont aussi tout à fait excellentes. Elles ont mis une claque à Gemini, une claque à GPT. Certes, alors OpenAI rattrape de temps en temps, notamment avec des modèles qui coûtent un peu moins cher. Donc, c'est difficile de dire qu'Anthropique les a complètement largués. Mais quand même, ils leur ont fait beaucoup de mal. Dans l'utilisation aussi, il y a eu un moment où OpenAI a fait sans doute l'erreur de vouloir s'allier avec l'armée américaine et dans la foulée, les gens ont désinstallé ChatGPT massivement et Claude s'est retrouvé en tête des téléchargements à peu près partout. Au moment du Super Bowl, ils ont fait de super pubs, ils ont fait parler d'eux et encore aujourd'hui, Claude est devant ChatGPT dans les téléchargements sur l'App Store et le Play Store, donc il y a eu un vrai bon.
Et tu le vois, moi autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui me parlent de Claude que
ça. Pour moi, là où c'est un coup de cœur, c'est pas forcément parce qu'ils sont les meilleurs, c'est parce qu'ils ont complètement réussi à inverser la tendance. Et aujourd'hui, ils sont passés d'un produit qui était très orienté développeur, Claude Code, à un produit très grand public, avec un modèle qui est très juste dans ses réponses, qui hallucine à mon goût beaucoup moins que les autres dans l'utilisation. Et surtout, sur ce qu'on appelle IA agentique, ils ont pris de l'avance. C'est un peu eux les premiers avec les fonctions co-work, avec les fonctions dispatch, qui ont permis en fait à l'IA de contrôler ton ordinateur quand tu n'es pas là, de faire des actions pour toi, d'automatiser des choses, d'utiliser ton téléphone pour parler à ton ordinateur à distance. Aujourd'hui, ça commence à devenir standard, entre guillemets, même si le taux d'utilisation de ces fonctions-là est très bas par rapport à l'agent conversationnel de base, mais ça fonctionne et ils sont en train de petit à petit refaçonner le monde de l'IA. Et un autre truc que j'aime beaucoup chez eux, on le voit à l'écran actuellement, c'est leur style graphique, leur charte, leur design. Ils ont fait quelque chose de différent des autres. Ils n'ont pas une interface blanche épurée avec un texte en Helvetica. Ils ont une police qui est très identifiable, il joue sur des dégradés de couleurs, sur des trucs beaucoup plus naturels, beaucoup plus planètes. Et c'est cool. C'est cool ce que fait Anthropic. C'est cool ce que fait Claude. Donc pour moi, vraiment, mon gros coup de cœur de l'année. On prédisait un peu en fin d'année dernière qu'on allait observer en 2026 un début de déclin pour ChatGPT parce qu'ils sont montés trop vite et qu'ils étaient en train de se faire attraper par Google notamment. Et finalement, un an après, c'est pas Google qui est passé devant. Google a eu un moment de grâce, mais aujourd'hui, c'est un peu ralenti. C'est Anthropic pour moi qui est mon gros coup de cœur de la saison.
Très bien.
J'ajoute juste quelque chose que avec Nico, on se connaît bien, on voyage très souvent ensemble, donc je le vois travailler. Je suis impressionnée. Ce n'est pas un agent d'Anthropic déguisé. Je peux vous le dire vraiment, je suis bluffée de tout ce qu'il en a fait et de la façon dont il a maîtrisé ça. Je te l'ai déjà dit et je répète. Vraiment, j'ai vu moi la force d'Anthropic en voyant comment il s'en servait.
Non, bien sûr.
Et c'est vrai que ça a l'air hyper simple, mais je pense que c'est beaucoup de calibration et de configuration avant. Mais c'est assez dingue de voir en un an le progrès et surtout de le voir à travers ce que Nico fait de travail dessus, à quel point c'est en avance sur le reste.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on dit l'IA va tuer le journalisme, va en fait bouleverser nos métiers. Mmh. Mais en fait, il va rendre meilleurs ceux qui savent s'en servir et les rendre beaucoup plus productifs et augmenter finalement. C'est ça. Et c'est ça qui est formidable. Donc, c'est le conseil qu'on peut vous donner à tous et dans tous les métiers. Hein. Alors, nous, on est journaliste, mais dans plein de métiers, l'IA vous permet d'être meilleur finalement. Parce que vous gardez toujours la main. C'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'est vous qui allez vérifier ce que l'IA va vous donner. Et si vous avez, on va dire, un certain niveau, une certaine qualité, vous allez exploser quoi, finalement. Vous allez être encore meilleur. Avant d'écouter le coup de cœur de Mélinda, moi j'aimerais bien vous parler d'une chose. Alors, pour tous ceux qui nous suivent un peu, vous l'avez remarqué, en ce moment j'ai plusieurs lubies. J'ai les flippers, ça c'est clair, parle de temps en temps. Mais j'ai la chance de pouvoir me créer une espèce de cocon avec un vrai home cinéma. Et j'ai toujours été fan de ce truc-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais des laserdiscs. Alors, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais il y avait des gros lecteurs qui vous permettaient d'avoir des gros disques, qui permettaient d'avoir des super images et du super son, etc. Enfin, j'ai toujours été fan de ça. Et là, je voulais vous parler d'un produit qui est assez en rupture par rapport à ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que c'est un projecteur vidéo. Et aujourd'hui, les projecteurs vidéo, si vous voulez quelque chose qui dépote vraiment, ça coûte très très cher. Mmh. Un projecteur vidéo, ça peut être 8 000, 10 000, 15 000 euros. Bon, bref, autant vous dire que c'est inaccessible. Et encore une fois, la technologie permet à des marques moins connues, et notamment une marque qui s'appelle Valerion, là, de sortir un produit qui est cher, hein, qui est en dessous de 4 000 euros, mais qui a une particularité, c'est qu'il est quasiment au niveau des grands JVC ou des grands Sony qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Alors, avec des bémols, c'est pas de la 4K vraiment. C'est-à-dire que on va avoir un petit écran LCD qui va dont le laser va projeter l'image dedans, et avec un système de vibration très très pertinent et très malin, on va arriver à avoir de la définition 4K. Mmh. Bon, ils le font tous, mais eux, ils le font particulièrement bien. Et ce qu'il y a d'amusant avec ce projecteur, c'est que il a été conçu sur Kickstarter en 2025. Et cette boîte Valerion a en fait parlé à tous les fans de tech en leur disant « Voilà, on a comme projet de faire un projecteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait dedans ?» Voilà, et on va essayer de le faire. Et vous allez mettre un peu d'argent. En gros, ils ont récolté 11 millions de dollars en tout. Et tout le monde a dit « Moi, j'aimerais bien avoir le Dolby Atmos, le Dolby Vision. J'ai vu qu'il y avait des projecteurs IMAX. J'aimerais bien qu'on mette une puce IMAX dedans, tous les derniers HDR, etc. Une prise Ethernet, RJ45, parce que ça n'existait pas sur les Projo. » Et en fait, ils ont fait un truc que tous les fans de home cinéma voulaient. Et ils ont réussi. Il a été présenté au CES en 2025. Il est sorti officiellement là, il y a quelques mois de cela, et j'ai la chance de pouvoir le tester, et c'est un truc de dingue. On a une qualité d'image incroyable. Il a plein de petits raffinements technologiques. Vous savez que le problème des projecteurs, c'est que souvent, quand ça projette et que vous regardez une image en noir, elle n'est pas tout à fait noire parce qu'il y a de la lumière derrière. Et eux, ils ont mis en place un système, c'est une espèce d'iris que tu peux fermer, si tu veux, qui va faire moins rentrer de lumière dans le projecteur et donc avoir moins cet effet de gris sur du noir. C'est quand même assez pertinent. Enfin, il y a plein de petits raffinements technologiques et je voulais en parler parce que aujourd'hui, on peut se faire, alors c'est beaucoup d'argent hein, tout ce que je vous dis, mais petit à petit, on se rend compte que le domaine de la projection est en train de devenir beaucoup plus accessible avec des produits, encore une fois, fabriqués en Chine, qui ont une vraie...
Une qualité supérieure à ce que tu avais avant sur le grand public.
Abordable aujourd'hui.
Alors, c'est abordable, c'est 4000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais tu te dis que... Pour 4000 euros, tu vas casser ta tirelire, ça va durer un moment, hein, les économies. Tu vas te faire plaisir et tu auras un truc super. Franchement, et vivement que je puisse vous inviter pour que vous regardiez
un
petit film.
J'aime beaucoup
tant que tu ne nous invites pas à la finale de la Coupe du Monde, tout va bien.
Bien sûr.
Invite pas à ça.
Et alors, dernier truc, toi qui aimes le jeu vidéo, il a une particularité, c'est qu'il a une latence. D'affichage qui est très très basse et qui permet de jouer à des jeux vidéo, même les plus exigeants en fait peuvent jouer sur ce type de projecteur.
Je vais venir te l'emprunter, il n'y a pas de problème.
Et ben voilà.
On va tous aller tester des choses chez toi, François.
Ouais, avec plaisir. Franchement, ça vaut le coup. Mélinda.
Gaming toujours. Évidemment,
forcément.
Je suis venue avec quelque chose qui est à peu près aussi grand que le vidéoprojecteur de François. Attention, accrochez-vous. Ceci est la MSI Klo 8X AI+.
AI.
C'est quand même fort de mettre des AI dans une console.
Tu mets des AI partout.
Si on ne peut pas en mettre partout, quand même.
Mais ça me fait penser à une Switch que tu aurais gonflée, tu sais.
C'est ça. C'est une Switch sous testostérone ou je ne sais quoi. non, c'est une très, très grosse console portable. Alors, vous savez qu'on en entend parler depuis le Steam Deck, vraiment depuis la Switch, qui a donné naissance à toute cette gamme de consoles que vous pouvez embarquer partout. C'est une version PC, c'est-à-dire dedans, vous avez tous les boutiques PC, Steam, ROG, Epic Games, tout, Microsoft Store pour les jeux PC. Tout ça, elle ne réinvente rien, elle est juste plus grosse, plus massive que les autres. Et surtout, elle n'a pas la même puce. Souvent, c'est des puces AMD. Là, c'est une puce Intel. Et là où c'est intéressant, c'est pour ça que je vous la montre. Alors, écran 8 pouces, quand tous les autres sont en 7, ça explique aussi qu'elles sont énormissime, même dans mes mains. C'est le gros retour d'Intel sur ses puces portables. La première génération, dans une MSI, ça avait été un fiasco. Non, mais il faut dire les choses. Ils étaient mal... visiblement, ils avaient mal travaillé ensemble. Tout ce qu'on nous promettait, c'était la console qui était censée révolutionner tout, mettre le Steam Deck au placard, les ROG Ally d'Asus, pareil. Flop, mais alors vraiment intégral. Cette nouvelle version, qui est la troisième génération, la puce est enfin optimisée et elle met une claque à toutes les autres. Honnêtement, vous pouvez jouer... vous pouvez jouer... déjà, la promesse première qui intéresse en général les gens qui jouent là-dessus, c'est l'autonomie. Quand on pouvait jouer une heure et on était, elle commençait à tirer la langue, c'était horrible. Là, on peut vraiment jouer. Moi, il y a des jeux, je suis presque arrivée en jeu à la recharger avant 10 heures.
10 heures,
presque. 10 heures d'autonomie sur ce truc-là.
Alors attention, je ne joue pas à des cyberpunk, à des trucs comme ça. Là, vous baissez et vous pouvez, c'est toujours pareil, vous pouvez régler votre façon de jouer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est nettement plus endurante que la précédente parce que la puce...
Le chipset graphique, c'est aussi de l'Intel ?
Tout est Intel.
Ah d'accord. Okay.
Tout est Intel. C'est une console Intel, c'est la seule qui est sous Intel. C'est un partenariat qu'ils ont depuis le début. Pas d'écran OLED, mais honnêtement, suffisamment bien calibré et de qualité.
Il y a le très bon LCD aujourd'hui.
Aujourd'hui, honnêtement, le problème, c'est quand vous avez goûté à l'OLED, oui, c'est dur. Mais
notamment sur les contrastes et les noirs qui sont profonds.
Voilà, mais honnêtement, les écrans, que ce soit la Xbox Ally, la ROG Ally, c'est à peu près les mêmes, celle-là, honnêtement, la qualité de la
date. Et c'est lumineux, l'écran parce que moi, les Switch, je ne supporte plus.
Mais les Switch, elles sont un problème à ce niveau-là, hein, honnêtement.
Okay.
Non, celle-là, ça va.
Et la définition de l'écran, tu l'as ou pas ?
C'est pas du 4K. On reste en 1080, mais honnêtement, ça fait largement le job.
Ouais, bien sûr, sur 8 pouces, ça suffit amplement.
Sur 8 pouces, ça suffit amplement. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est là où le IA est drôle, c'est ça. Justement, l'IA, ça apportait pas du tout de fonction inutile. Ça optimise votre façon de jouer. Et vraiment, sur ce modèle-là portable, moi, c'est le premier modèle que je vois vraiment agréable à utiliser pour tous les jeux, pour l'autonomie. Ergonomiquement, c'est tout bête. Alors, on parlait hors antenne avec Nico du Steam Deck qui était très, très droit. Les premières consoles, c'était très, très droite. Ce petit bord biseauté, je vous jure, c'est la clé. Parce que dans la paume de votre main, c'est comme les manettes. Ceux qui jouent avec des manettes Xbox, par exemple, cette sensation de prise en main est nettement meilleur que
la Joy-Con de la Switch ou tout ça.
Exactement, que tous ceux qui l'ont pas.
Moi, je trouve ça épais quand même.
Ah non, mais elle est énormissime.
Je t'avoue que...
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico ?
Je sais pas.
Tout à l'heure, tu nous disais, je ne suis pas fan de ce type de produit.
Non, je ne suis pas un grand fan parce que je trouve ça épais, gros, tout ça. Après, D'un autre côté, j'adore la Nintendo Switch. Elle a évidemment des défauts ergonomiques, mais je suis aussi conscient de ses limites techniques. Donc, il faut plus de puissance
T'as
pour pouvoir jouer à faire plus
là.
De choses.
Tu as 50% de puissance que sur les meilleurs qui étaient les Roguelite X.
Ah oui. Non, mais
aujourd'hui,
c'est ça.
On est vraiment sur une bête de compète. Et avec l'IA qui est là pour obscaler l'image, obscaler tout gérer, c'est de l'IA intelligent. En revanche, en effet, si vous aimez l'écran OLED, il n'y a pas d'OLED.
Ouais.
Et puis...
On peut la brancher sur la télé.
Alors, ça, c'est génial, parce que c'est un mini-ordinateur, en fait.
Bah,
un mini-ordinateur
c'est
Windows.
Un PC.
C'est un PC. Si tu veux jouer mieux sur ta télé, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu la branches avec un câble HDMI et un raccord USB-C, parce que c'est quand même de l'USB-C.
Ouais. Tu joues sur ta télé.
Et je connecte ma manette en Bluetooth et je peux jouer. Si vous voulez travailler, vous connectez une souris et un clavier en Bluetooth.
Il n'y a pas de dock obligatoire. Tu branches
non, pas
juste du
tout,
le câble.
Tu branches direct.
Ça, c'est bien.
Je l'ai même branché sur un vidéoprojecteur. Tu vois, tu pourras sur ton vidéoprojecteur. En revanche, ce qui fait que je ne peux pas la recommander, sauf à des profils très, très particuliers, c'est le prix.
Oula.
On est à 1600 euros.
1600 euros.
C'est énorme. Ouais. Alors, certes, beaucoup de stockage et tout. Mais
c'est
en fait, le problème de cet appareil, pourquoi je voulais vous en parler, c'est vraiment le symptôme de cette année. On a parlé de beaucoup de choses très positives
oui,
cette année.
Oui, c'est l'explosion de la RAM.
Le problème principal
de la tech en 2026, déjà fin 2025, c'est l'explosion des prix. L'explosion de la RAM à cause de l'IA.
Et ça va continuer.
Et ça va pas aller en s'améliorant. L'explosion des prix des composants aussi, qui ont tous augmenté à cause de tout ce qui se passe dans le monde. À cause de ça, cette console qui est pour moi la meilleure du marché, on peut la recommander qu'à des gens qui vont cumuler un PC et une console de jeu à transporter.
Ouais,
combien ils sont ? Pas beaucoup.
Voilà. Mais ça sera le mot de la fin. Et vous savez, cette histoire d'explosion du prix de la RAM, on n'a pas fini d'en parler. Vous verrez qu'à la rentrée, toutes les annonces des produits tech, les smartphones,
l'iPhone,
les PC, etc., l'iPhone notamment, ça va faire mal au porte-monnaie.
C'est clair.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda d'Avansoulas de BFM Tech, Nicolas Lelouch, Numérama, et on te retrouve sur Télématin la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques minutes, juste après Stan Larocque qui sera là, pour le petit module bonus, et on parlera aussi de la déconfiture d'une marque de smartphone chinoise qui va disparaître. On ne vous en dit pas plus, ce sera dans le module bonus, exclusivement dédié donc à tous ceux qui nous écoutent en podcast. À tout de suite, c'est De quoi je me mêle, un grand merci d'être là.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà le retour de ce De quoi je me mêle, deuxième partie. On va maintenant recevoir quelqu'un que vous connaissez, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans De quoi je me mêle. Et s'il est là avec nous aujourd'hui, c'est pour nous annoncer une grande nouvelle. C'est Stan Larocque qui est là. Salut Stan.
Salut.
Stan Larocque est un entrepreneur incroyable, très jeune entrepreneur, appelons ton âge.
Là, j'ai 32 ans.
32 ans, voilà. Tu as commencé à être entrepreneur à quoi ?
24 ans.
C'est le fondateur de Lynx. Lynx qui était la seule boîte française qui avait sorti un masque VR. Vous vous en souvenez si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle, on en avait parlé même dans Tech & Co, bien sûr. Et tu es là avec nous pour nous annoncer une grande nouvelle. D'accord. Et tu es aussi, et c'est ça qui est intéressant, nouveau dirigeant chez Parrot. Parrot, là encore, boîte que vous connaissez si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle. Parrot qui a été un géant de l'électronique française il y a quelques années dans le domaine des casques audio. Ils ont fait des drones, etc. Ça a été le roi du Bluetooth dans la voiture aussi au tout début de son histoire, hein, Parrot. Et aujourd'hui, ils se sont repositionnés dans les drones de défense. Ils vendent des drones un peu partout. Et quand on voit aujourd'hui l'actualité géopolitique, on se rend compte que les drones ont un vrai sens aujourd'hui de défense et même d'attaque. Donc tu rejoins Parrot. Bon, on va en parler dans un instant, mais explique-nous ce qui se passe pour Lynx.
Bah alors, effectivement, il y a un grand chamboulement. Lynx, donc on a annoncé à San Francisco une version 2 de notre casque. Oui. On avait signé un énorme partenariat de plusieurs millions avec Google l'année d'avant. Enfin, c'était vraiment super. Et puis, il y a eu des petits accidents, on va dire, industriels et financiers qui ont été très challengeants au premier trimestre et qui ont plongé la boîte dans un redressement. Et donc là, bah, c'est très, très dur pour tout le monde. Donc, c'est la énième levée de fonds qui ne s'est pas faite. Ça a été assez compliqué. Le moral était assez bas. Et au final, parce que Lynx représente une valeur assez importante dans la tech tout de même, avec ce qu'on a pu créer, développer, montrer en techno autour de la réalité mixte, de la réalité augmentée et tout ça, il y a eu pas mal d'offres de reprise de la boîte.
C'est vrai.
Ça a créé des enchères.
Ok.
Et au final, ce qui est super, donc il y a eu des Américains, il y a eu des Indiens, il y a eu des Européens, et ça s'est fini d'une assez belle manière au final malgré ce gros challenge, c'est que c'est Essilor Luxottica, donc qui est quand même un grand groupe du CAC 40,
bien sûr,
et une société française, enfin franco-italienne, qui a repris Lynx. Et donc voilà, donc les équipes, toute la propriété intellectuelle, la production, le stock, tout ça là sont en train de passer chez Essilor. Donc c'est plutôt sympa en fait comme héritage.
Ouais, bien sûr.
On a créé une super innovation, une super cellule d'innovation en fait autour des technologies immersives, et ça finit quand même chez une boîte du CAC 40 qui est Essilor en plus, qui investit énormément dans les lunettes connectées.
Et qui est dans le domaine de la vision, les lunettes connectées, etc. etc. Donc on peut imaginer que tout ce que tu as créé avec ton équipe, tout ce que tu as développé avec ton équipe ne va pas partir à la poubelle.
Exactement.
Va se retrouver dans d'autres produits brandés Essilor Luxottica, forcément.
En fait, c'était la hantise de l'équipe et de moi-même. C'est-à-dire
mettiez tout à la poubelle, quoi.
En fait. Ouais, si jamais la boîte s'arrêtait, qu'il ne se passe rien. Mmh. Et que le truc s'arrête et que personne ne réagisse. Alors que là, ça a été exactement l'inverse. Même l'État français, à un haut niveau, s'est emparé du truc en disant mais c'est pas possible, on peut pas vous laisser tomber. Donc, quand même, il y a eu un élan, et si tu veux, ça a validé moi ce que j'ai pu créer en fait pendant 8 ans tout de même.
Ouais.
Voilà, on s'est bien amusé et on a bien vécu, mais si tu veux, on a surtout créé pas mal de valeur au passage.
On s'est bien amusé, mais on se connaît un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir t'interviewer plusieurs fois avec des hauts et pas mal de bas aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être entrepreneur en France dans la tech et quand on lance un produit hardware,
C'est horrible.
Quasiment mission impossible. Si tu n'as pas du cash et si tu ne fais pas une levée de fonds conséquente, c'est...
Et même quand tu as du cash, les relations, les clients, etc., tu peux quand même te
planter.
Te planter. Et donc, non, c'est super dur. Et je le dis toujours aux personnes autour de moi qui veulent se lancer. Je vous le dis, ne le faites pas, c'est super dur. Bon, après, les gens font quand même leur truc. Et là, il y a d'autres conseils qui arrivent. Mais oui, c'est très, très dur. Et je pense que ça n'a jamais été aussi difficile de faire du hardware en France. Et donc, si bien que quand Lynx s'est arrêté pour moi, pas pour mon équipe, mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais certainement pas rejoindre un groupe du CAC 40. Alors ça c'est certain, je ne suis pas à cette étape de ma vie encore. Et j'ai encore beaucoup trop d'énergie pour créer des choses.
Tu aurais pu, parce qu'il y a plein de dirigeants de boîtes comme ça qui intègrent aussi la société qui les rachète pour insuffler pendant un certain temps.
Bien sûr.
Tu vois, une philosophie, motiver les équipes, etc. T'avais pas envie ?
J'avais pas envie. Déjà, j'étais fatigué.
Parce que t'as vécu là. Alors, vie ma vie d'entrepreneur, ces derniers mois, c'était compliqué. C'est-à-dire que.
C'était les montagnes russes. Les vraies montagnes russes, c'est signer des gros partenariats avec des Google, des Qualcomm, etc. Et puis à côté.
Ne plus avoir trésorerie.
Ne plus avoir trésorerie. Quand on est sur place, nul n'est prophète en son pays. Hein, donc. C'est sur place en France, c'est compliqué d'expliquer ce qu'on fait malgré tout ce qu'on avait à montrer. Donc c'était très très compliqué, et ça je le raconterai, ce sera dans le livre aussi.
Tu vas sortir un livre?
Je pense que
il faut que tu racontes cette histoire là parce que c'est
on a fait des trucs extraordinaires. Non, mais
c'est
dingue.
C'est une histoire entrepreneuriale qui se termine bien finalement, alors qui se termine peut-être pas comme tu l'aurais voulu, parce
pas les 20 milliards qu'on espérait, voilà, mais plus important que ça, en fait, le produit en fait continue de vivre. Et ça pour moi, c'était super important. Tu vois, c'est comme si on t'arrachait un bras,
mais au final,
on va le mettre sur un corps encore plus grand, quoi. Voilà. Bon.
Est-ce que tu sais ce que va faire Essilor Luxottica de Lynx ou pas ?
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, et je vais pas non plus commenter ce qu'ils ont pu partager. En tout cas, je suis très content pour l'équipe parce que les moyens sont différents, l'ambition reste grande aussi. Peut-être un peu différente, mais je pense que c'est une super. Je suis très content en fait de.
Quand on connaît un peu, alors moi, il m'arrive aussi de recevoir sur le plateau de Tech & Co des dirigeants de Essilor Luxottica. On voit bien le pivot qu'ils sont en train de faire. Hein. Ça devient une boîte de medtech aujourd'hui. Et comment, en analysant les yeux, le comportement de ton regard, etc., tu arrives à retirer des informations de santé. Et on sait qu'ils sont très forts sur les lunettes connectées. Alors, ils ont leur partenariat avec Meta, mais ils ont peut-être d'autres projets aussi. Et c'est vrai que Ben voilà, toute l'expertise que tu avais apportée en AR, en VR, va arriver chez Sylor. Peut-être qu'on aura une bonne surprise dans quelques mois ou quelques années.
Je l'espère. En tout cas, oui, le virage MedTech, c'est un virage qu'ils ont bien pris. Le virage du consumer électronique, un peu avec ce qu'ils font avec Meta. Mais là où ils sont très très forts, c'est le MedTech autour de la vision, ça c'est certain. Mmh. Et oui, j'espère que dans quelques mois, voilà, on verra des choses sympas où on se dira, tiens, ça me fait penser à
ça peut
un
penser
peu ce
à
que faisait Lynx à un moment. Voilà.
Parce qu'il y avait un soft, enfin il y avait du hardware, il y avait du soft.
C'était
en fait.
Entièrement verticalisé. Voilà, on c'est... avait fait du métal, du silicium avec Qualcomm jusqu'à l'OS et la couche applicative. Et c'était ça la force de Lynx, c'était qu'on était un systémier. C'est-à-dire ouais. que un peu sur le même business model qu'Apple, c'est-à-dire mmh. avec des moyens... différents, mais on essaie de faire tout de A à Z pour amener une couche applicative au client, clé en main, et super bien intégrée. Donc, et très optimisée. C'est la seule manière de faire, c'est de tout faire. Tu vois, c'est comme ça qu'on réfléchissait en interne en disant il faut vraiment qu'on soit à bras le corps sur tous ces sujets.
Avec toutes ces années où tu as été entrepreneur, on disait les montagnes russes avec des hauts et des bas, quel est ton plus beau souvenir ? Est-ce qu'il y a un moment dans cette vie d'entrepreneur que tu n'oublieras jamais parce que c'était... on va pas parler du plus mauvais, mais du meilleur.
Ouais, je pense que j'en ai deux très rapidement. Et donc, j'en ai parlé dans un de nos interviews. Cette rencontre avec Palmer Luckey, qui a fini par me prêter sa maison. Ouais. Et avec qui
rappelons qui est Palmer Luckey.
Palmer Luckey est le fondateur d'Oculus et aujourd'hui surtout le fondateur d'Enduril.
Il a été racheté par Meta.
C'est le seul gars en dessous de 30 ans qui a créé deux licornes. Enfin, c'est un... Et c'est aussi un personnage de film assez extraordinaire.
Mais c'est dingue que ce gars-là, qui comprenait ce que tu faisais, et c'était l'un des rares à comprendre ce que tu faisais, d'accord, te prenne un petit peu sous son aile, finalement, en disant « Ok, je vais t'aider, prends ma maison, etc. Ouais. » C'est dingue, quoi, c'est fou.
Ouais, c'est fou, et j'espère un jour aider des plus jeunes aussi de la même manière. Donc, je pense que cette rencontre avec Palmer Luckey, ça a été super chouette, c'était très intéressant, et j'ai vu des choses assez extraordinaires. L'autre moment... C'est à la première keynote que j'ai faite à San Francisco, où tu es vraiment sur une scène mondiale où il y a, si tu veux, 3000 personnes dans la pièce et il faut montrer son produit en tant que petit Français, en être fier et le porter avec son petit accent, etc. Donc, si tu veux, c'était un moment fort pour l'équipe. Il y avait l'équipe dans la pièce et tout, c'était super.
C'est un peu le moment de vérité, quoi.
C'est le moment de vérité où on se dit, ça faisait 2 ans qu'on travaillait dans le plus grand secret sur le casque. Donc, j'avais 26 ans à l'époque. Et si tu veux, je descends de scène. Et là, la boîte mail explose. On avait présenté notre V1. Et un des premiers mails qu'on reçoit, c'est la NASA qui nous avait dit on serait un de vos premiers clients.
Incroyable.
Et, tu vois, quand t'as...
et là, tu t'es dit, ça y est.
Là, tu te dis, je
fais un truc intéressant et c'est peut-être l'étincelle qui va faire que ça va décoller.
Et ça a duré 8 ans. Et ça a été extraordinaire parce qu'au final, on a fait des choses avec eux. On a fait des choses avec l'Agence spatiale européenne, avec des chirurgiens, avec des soldats aussi dans la défense.
Incroyable.
On a vu des choses absolument incroyables qui seront racontées un jour. on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est Lynx, c'était une histoire très, très chouette. Voilà, pour moi, c'est fini. Donc, j'ai dû travailler là-dessus.
L'équipe c'est dur continue. Ou pas, émotionnellement
C'est dur. C'est dur parce que... Voilà, sans se mentir, tu vois, t'as forcément de l'ego. Tu vois, t'as de l'orgueil pour ce que t'as fait.
Bien sûr.
En disant, ça fait 8 ans. Et si tu veux, pour que le truc grandisse, il faut le passer à un grand groupe. Ce qui est une très bonne chose.
Oui,
une
victoire,
c'est un succès énorme. Mais,
c'est comme si il y a une partie de toi qui partait finalement, dans laquelle tu t'es investi pendant 8 ans et qui t'échappe.
Voilà, et donc c'est plus toi qui prends les décisions. Ouais, il y a un peu d'orgueil, tu vois.
Oui, c'est clair.
Franchement, c'est un peu dur là-dessus, mais au final, pour la suite, j'ai aussi une chance de rebond assez extraordinaire.
Alors raconte-nous, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas perdu de temps, si je puis dire.
Voilà, ouais.
Tu as fait une rencontre avec un grand entrepreneur de la tech français,
ouais.
qui est assez discret, c'est Henri Sédoux.
Voilà, alors en fait, dans la tech française, des systémiers, des gens qui font leur système de A à Z, de la supply chain en Asie jusqu'au logiciel client, enfin juste avant le logiciel client, donc la couche applicative avec les algos, l'OS, etc. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. On peut citer WeThings, Parrot aussi. Et si tu veux, les entrepreneurs qui font ça, on se connaît à peu près tous parce qu'il y en a très peu. Et quand la situation a été compliquée pour moi, donc courant mars, Henri et Cédou, parce qu'on déjeunait ensemble tous les trois mois, parce qu'on, en fait, on partage certaines cicatrices, tu vois, qui sont un peu les mêmes combats
bien
de
sûr, sûr, oui.
sortir des produits, ouais. Fabriquer.
Sauf que lui, c'est un autre niveau, bien évidemment.
C'est un ordre de grandeur supérieur. Voilà, parce qu'en fait, il fait ça depuis 32 ans.
Bien sûr.
Parrot, c'est une ouais. boîte.
Mais il comprenait ce que tu vivais.
Il a tout de suite compris, du moment où on s'est rencontrés, ce que je faisais. On s'est très bien entendu parce qu'on partageait des challenges. Et il m'a tout simplement appelé en disant viens. Vraiment, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il m'a dit viens, moi, Parrot est en pleine croissance. Voilà, sur le premier trimestre, oui. il y a eu plus de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Alors, c'est une boîte qui a connu des hauts et des bas.
Et lui, les montagnes russes, il les a toutes vues.
Il les a toutes vues, parce qu'il y avait un moment où, justement, avant de faire ce virage vers le B2B et de vendre des drones un peu partout dans le monde, la boîte était à l'agonie. Hein. Moi, je m'en souviens.
Parrot a eu 1000 vies et les montagnes russes, il a toujours survécu, il s'est toujours relevé. Et donc, quand on se partageait un peu nos hauts et nos bas, lui, c'était... tu verras.
Et quand il a su que Lynx était racheté par Essilor Luxe Ticket, il t'a proposé de rejoindre le groupe.
On a échangé, et il m'a dit, écoute, Parrot est en pleine croissance, le marché des drones est en pleine croissance. D'un point de vue système, un drone, c'est un smartphone qui vole. En tout cas, la manière dont Parrot reçoit les drones aujourd'hui,
tout à fait.
C'est une puce Qualcomm au milieu, des super caméras, des choses... ça vole vachement plus haut qu'un smartphone, donc tu as quelques trucs différents. Et un casque, c'était un smartphone qu'on mettait devant les yeux de quelqu'un. En fait, donc, d'un point de vue système, il y a 70% d'overlap, je dirais. Et du coup, je n'ai pas du tout été perdu en découvrant son produit,
non, c'est clair.
Que je connaissais déjà.
Ouais.
Tu disais qu'on fait des drones de défense. Pas vraiment, on fait des drones d'observation.
D'observation, d'accord.
Voilà, d'observation, qui sont utilisés dans la défense, parce qu'ils sont
dual
use. Mais en fait, on fait de super caméras qui volent, grosso modo. Pour faire de la reconnaissance, de l'observation.
Et avec des gros contrats, avec l'armée américaine, évidemment,
avec un
plein d'autres pays, etc.
De vente,
Parce que le contexte géopolitique est ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis ne vont pas s'équiper de drones DJI pour des raisons...
C'est d'ailleurs interdit.
C'est interdit.
Ouais.
Donc, effectivement, la carte à jouer pour Parrot,
exactement.
Qui peut investir le marché américain.
Comme Lynx en face de Meta, ce qu'est Parrot en face de DJI, notre chance aujourd'hui,
c'est d'être
ni américain ni chinois, et du coup de pouvoir un peu alimenter des marchés qui veulent ni l'un ni l'autre, si tu veux.
Et puis Parrot représente un peu ce qu'on recherche tous. C'est, on va dire, un industriel de la tech français. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. C'est rare.
Un industriel systémier. Qui innove aussi énormément dans les algorithmes de vision par ordinateur, de navigation, de reconnaissance. Et ça, la valeur ajoutée, elle est quand même énormément là-dedans. Parrot l'a bien compris. Et c'est aussi pour ça que les clients viennent chez Parrot. C'est-à-dire que le software est complètement souverain, il est maîtrisé, il est performant. Donc c'est assez chouette. C'est une belle plateforme. C'est une super belle plateforme.
Tu sais quoi ? On va te laisser prendre tes aises, t'installer, ranger ta chambre chez Parrot. Et tu viendras nous expliquer un petit peu la stratégie de Parrot ?
Avec plaisir, oui.
Puisque tu deviens en quelque sorte l'un des porte-parole de Parrot.
Oui, voilà. C'est-à-dire que Henri et puis d'autres dirigeants dans le groupe prennent la parole régulièrement et j'en fais partie. Oui.
Super. Voilà. Merci d'être venu nous raconter, j'allais dire à chaud, cette histoire, puisque c'est très récent, le fait que Lynx soit racheté par Essilor Luxottica. Merci d'être venu et je voulais véritablement conclure cette saison de Quoi je mêle avec toi. Merci beaucoup Stan.
Merci François.
D'être venu et à très vite.
À très vite.
Donc avec la casquette Parrot que tu as à moitié encore aujourd'hui. Ce de Quoi je mêle est terminé. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Profitez-en bien. Le petit module bonus qui vous attend si vous êtes en podcast audio. Et puis on sera de retour, donc je le disais, dernière semaine d'août. Ce sera le 27 août qu'on sera de retour, de 27-28 à peu près. D'ici là, profitez bien, reposez-vous bien et à très vite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.